Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de littérature et nous avons au téléphone Christophe Clarot. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone. Nous parlons donc d'Oméga Mineur, écrit par Paul Verhaeghen. Et ma première question pour vous, Christophe Clarot, peut-être un peu abrupte, parce que c'est quand même une traduction assez imposante, assez longue, ça fait quand même quasiment 250 pages, ce livre Oméga Mineur, c'est qu'est-ce qui vous fait fantasmer dans Oméga Mineur ?
Bah, la première chose, déjà, c'est que l'auteur est belge, a écrit son livre en néerlandais, et s'est traduit lui-même en anglais parce que il y a eu des essais de traduction qui avaient été faits par les Américains mais qui lui convenaient pas. Donc il a lui-même fait un essai qu'il a envoyé anonymement et c'est son essai qui a été retenu. Donc du coup, Verhaeghen a traduit entier son livre lui-même. Et moi, quand j'ai lu le bouquin, j'en avais entendu parler à l'époque où il était sorti en néerlandais, mais je connais pas la langue donc je pouvais pas le lire. Donc du coup, j'ai attendu et puis j'ai lu sa traduction et là j'ai été bluffé, stupéfié, d'abord par le livre, bien sûr, et aussi par son travail de traduction, qui était un véritable travail de recréation, et en ça, correspondait tout à fait à ce que moi, je pense, de la traduction, à savoir qu'il faut que ça recommence. Hein. Et voilà, donc c'était un double plaisir de traduire un livre qui est à la fois monumental, très pinchonien, très américain, même si tout se passe à Berlin, mais d'une liberté d'écriture incroyable, et puis voilà, de savoir que son livre comme ça voyage très vite à travers plusieurs langues pour finir en français. En plus, c'est agréable parce que lui, il lit le français, donc il a pu se lire en traduction et ça lui a fait plaisir de voir voilà que son livre pouvait recommencer comme ça très vite en plein de langues.
Alors, ça, l'historique de l'auteur, forcément. Ensuite, vous avez le texte en anglais et là, tout de suite, qu'est-ce que ça vous fait comme effet ?
C'est un texte qui est très malin, hein, parce que il joue beaucoup avec le lecteur. Il y a déjà une entrée dans le texte qui est complètement magnifique, puisqu'il décrit une scène érotique, qui est comme ça une scène à la fois orgiaque et d'origine du monde, qui est décrite comme une naissance d'une galaxie et une mort d'un monde, alors que c'est juste une scène sexuelle dans un hôtel. Donc c'est toujours agréable les livres qui commencent par une entrée en matière comme ça très forte. Et puis après, ben, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il arrivait à revisiter comme ça des étapes un peu cruciales du XXe siècle, comme la Seconde Guerre mondiale, les camps, mais également la fabrication de la bombe atomique. Donc c'est toujours ça qui est intéressant, c'est quand un livre à la fois s'empare de grands moments du siècle, et tout en ancré dans une matérialité... des personnages, une sensibilité, parce que ça arrive extrêmement, extrêmement tactile, extrêmement sensible. Donc vraiment, on est avec le personnage. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, évidemment, c'est qu'à un moment dans le livre, il y a un retournement absolument incroyable qui fait que, voilà, que le lecteur en est aux deux tiers. Ben, il apprend quelque chose qui l'oblige à tout relire. Donc, c'est intéressant au niveau de l'histoire, au niveau de la fiction, à tous les points de vue. Il y a vraiment un jeu avec le lecteur. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand l'écrivain, quelle que soit la difficulté de son texte et ses ambitions, garde toujours comme ça le lecteur comme objet à placer dans un jeu.
Est-ce que cet auteur, du coup, fait partie de la tradition postmoderniste américaine ? Est-ce qu'on est en plein dans ce courant postmoderne ou est-ce qu'il introduit comme ça des nouveautés, des déplacements qui pourraient le mettre un petit peu à côté ? Non, on est vraiment dans ce courant-là ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, voilà, justement, autant le postmodernisme en littérature, donc c'est essentiellement défini, enfin, en tout cas pour nous, par la littérature américaine, et on s'aperçoit que voilà, on est à une époque beaucoup plus mobile, et que voilà, c'est un auteur belge, mais qui écrit, qui se traduit en anglais, puis qui maintenant vit aux États-Unis, mais qui nous parle de Berlin. Donc je pense que plus que de dire quelque chose sur une évolution littéraire, c'est un livre qui montre maintenant voilà que les écrivains, ils sont toujours... enfin, les grands écrivains, ils aiment bien être à cheval sur plusieurs pays ou sur plusieurs langues. Et que le but, c'est pas de s'inscrire dans une tradition ou d'essayer de renouveler. Enfin, il y a un grand plaisir romanesque dans le livre, mais à la fois, il y a aussi des thèses qui sont développées, mais jamais il ne perd... ce souci premier qui fait qu'un écrivain est un écrivain, c'est-à-dire le souci de la langue.
Ce qu'il y a d'étonnant dans ce personnage, enfin dans ce personnage de Paul Verhaeghen, c'est qu'il a écrit que deux livres Et après avoir un premier livre qui a rencontré le succès, il a mis vraiment du temps, énormément d'années à faire cet Oméga mineur. Il a mis tout son corps et son énergie, j'ai l'impression.
Oui, mais ça, c'est assez intéressant. Bon, il écrit un premier livre qui n'a jamais été traduit en anglais, qui ne veut pas d'ailleurs, il ne veut pas qu'il soit traduit, il ne veut même pas que ça soit traduit en français, donc voilà, il le met de côté. Après, il fait ce Oméga mineur qui rencontre un succès assez important, puisqu'il a été primé comme meilleur livre étranger aux États-Unis, et beaucoup de prix dans son pays. Et maintenant, on ne sait pas trop s'il va faire autre chose, lui-même ne sait pas. Et je trouve. Voilà, qu'il y a quelque chose de fort là-dedans, parce que ça rappelle que un écrivain, ce sont ses livres qui le font. C'est pas juste quelqu'un qui est forcément se lance dans une œuvre, etc. Et voilà, il y a des gens, des fois, ils arrivent à tout dire en un livre. Bon, je pense personnellement qu'il va se repiquer au jeu et qu'il nous ferait quelque chose. Mais il n'est pas indexé comme ça, une question de carrière littéraire. Voilà, c'est le livre qui est le plus fort. Et après. Il faut laisser vivre le livre pour lui, donc il n'est pas à cheval. En plus, c'est quelqu'un qui a un métier, il est scientifique, il fréquente un tout autre domaine, et il n'est pas forcément reconnu comme écrivain aux États-Unis. En tout cas, ses collègues ne le lisent pas forcément, donc ça lui permet aussi d'avoir cette partie-là qui est comme aussi pas un continent secret, mais en tout cas, voilà, c'est autre chose.
Alors, dans ce livre, Oméga Mineur, Paul Verhagen a réussi à fabriquer des personnages qui sont incroyables de crédibilité, comme ce physicien Goldfarb qui aurait participé à la fabrication de la bombe A. Il arrive à inventer des personnages qui soient d'une incroyable prise avec l'historique européen et qu'il arrive à inventer. C'est ça qui fait sa force aussi?
Ça, c'est le grand génie comme ça de ces écrivains qui, on sent qu'ils ont fait des recherches incroyables. Enfin, en le traduisant, j'ai dû faire d'autres lectures et je me suis aperçu qu'effectivement, enfin, tout ce qu'ils disaient était basé dans la réalité. Donc, il y a un gros travail de documentation, mais qui est extrêmement bien digéré et qui fait que son souci premier, par exemple, si vous parlez de ce physicien, c'est de le rendre réel, c'est de le rendre physique, voilà, avec ses émotions, ses petites peurs, ses petites ambitions. Et c'est le but pour créer un personnage, c'est ça, c'est d'avancer sur deux fronts en même temps, à la fois un côté, j'allais dire microscopique, hein, du personnage, et un côté macro, c'est-à-dire comment il s'inclut dans une histoire globale, sociale, scientifique, historique.
Parce que pour moi, ma figure préférée dans ce livre, c'est la figure de Goldfarb et de son assistante Donatella, Les aventures érotiques. Vous parliez de ce début du livre où en fait c'est une scène sexuelle. Voilà, il y a tout un jeu entre les deux et la manière dont il arrive à faire fantasmer le lecteur sur ses personnages est assez éblouissante dedans.
Il y a un enjeu derrière qui est absolument crucial, et qui course dans tout le long du livre, puisqu'on a l'histoire quand même de à la fois d'un physicien qui a aidé à la construction de bombes atomiques, donc à la fois la fin d'un monde, mais aussi le début d'un monde. Ça a permis la paix, enfin en tout cas selon les Américains. On a un autre personnage qui est un juif à plus ou moins l'agonie, qui est un rescapé des camps, etc., mais qui a survécu et qui a connu Berlin. Donc c'est chaque fois, c'est le monde est en train de finir, le monde est en train de commencer, et les personnes sont toujours à cheval comme ça sur ces deux failles et essayent de raconter cette expérience. Ils ont vécu la fin d'un monde, ils ont vécu le début d'un nouveau monde, mais donc ils savent que voilà, le monde de nouveau va finir. Alors ils se préparent des choses terribles. Enfin, le livre, on va pas révéler la fin, mais bon, il y a une espèce d'apocalypse comme ça qui gronde dans tout le livre. Et puis, ce que je disais, il y a des retournements qu'on ne peut pas expliquer, ce serait d'horribles spoilers, mais qui montre que voilà, c'est le livre aussi peut finir à chaque moment parce que il comporte un danger.
J'aurais une dernière question plus personnelle pour vous, sur vous en tant que traducteur de fiction complexe. Est-ce que vous avez des rêves de traduction que vous savez pertinemment que vous ne pourrez jamais faire, soit parce qu'elles ont déjà été faites, soit parce qu'elles ne seront pas possibles, pas envisageables?
Oui, on a toujours des petits fantasmes comme ça, des choses. Mais en fait, je pense qu'on est surtout à l'affût et en attente justement du texte de vous. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, j'aimerais retraduire le festin nu, même des textes qui sont bien traduits. En plus, c'est pas ça le problème, hein. C'est juste pour qu'il se passe autre chose. Mais en fait, quelque part, c'est voilà, on attend aussi le nouveau Finnegan's Wake, le nouveau Ulysse, ou je ne sais quoi. Enfin, on n'est pas. La traduction, c'est pas que de la nostalgie et du regret. Il faut que ça soit plutôt de l'attente et de la vibration.
Donc, vous êtes en attente d'un génie littéraire.
Voilà, je vibre comme un iPhone.
Merci beaucoup Christophe Claveau d'avoir été nous.
Merci à vous.